37 bâtonniers de l'Ordre des avocats, représentant la grande région sud-ouest, ont organisé vendredi après-midi une conférence de presse solennelle à Tarbes. Ils souhaitaient réagir aux récentes annonces de la garde des Sceaux concernant le projet de loi sur la justice. Ils sont très inquiets pour l'avenir de la justice dans notre pays et prévoient de participer aux futures journées d'action organisées à l'appel des trois grandes instances représentatives des avocats en France. Dans ce reportage de notre correspondant Jean-François Courtille, Pierre Châtel, président de la Conférence des bâtonniers du Grand Sud-Ouest, explique pourquoi tous les avocats de France se mobilisent contre ce projet de loi et notamment contre la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance ou encore la mise en place d'un système numérique pour les demandes des justiciables.
Aujourd'hui, il y a 37 bâtonniers qui, au sein de la plus grande région de France, la nôtre, représentent 9000 avocats. Mais au même moment, il y a dans les 9 autres conférences les mêmes réunions pour faire en sorte que les 60 000 avocats de France portent la même parole sur une concertation qui n'existe pas, sur un dialogue que nous voulons créer, sur des propositions que nous avons à faire dans le cadre d'une justice qui, si elle doit évoluer, ne peut pas le faire sans être la consultation donnée à ceux qui la pratiquent au quotidien. Aujourd'hui, le combat des avocats n'est pas un plaidoyer pro domo. Nous plaidons aujourd'hui dans la rue, en robe. Nous plaidons aujourd'hui devant vous une cause qui est la plus noble qui soit, c'est celle de la proximité, c'est celle du justiciable, c'est celle que demain, nous voulons être au plus près, alors que peut-être demain, si ce projet passe, nous serons non seulement au plus loin, mais à travers, selon le terme, une interface. Je pense qu'un clavier d'ordinateur, si utile qu'il soit, n'a jamais remplacé la compréhension de l'autre à travers un dialogue, à travers un échange, à travers des mots, et l'avocat est le traducteur de ces mots. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les avocats de France sont dans la rue, parce qu'effectivement, dans nos cabinets, au quotidien, nous constatons que demain, la peur s'installera. Elle n'est pas là aujourd'hui, parce que nous, nous l'anticipons. Voilà pourquoi, monsieur.
Et un aspect de ce projet de loi qui vous a choqué particulièrement, qui consisterait à proposer aux personnes voulant avoir un contact avec la justice, notamment en lien avec les tribunaux d'instance, eh bien de devoir utiliser un ordinateur, de faire une demande par Internet avec un système de légi-justice et avec un algorithme en quelque sorte qui ferait le tri des demandes et le discernement des procédures à mettre en œuvre. Donc c'est quelque chose, vous, qui vous paraît inacceptable aujourd'hui ?
Un des principes fondateurs de la justice a toujours été la personnalisation. Alors bien sûr, nous luttons contre quelque chose qui ferait que, à travers un ordinateur, encore faut-il en avoir un, encore faut-il savoir s'en servir, encore faut-il savoir quelle est la bonne question, on puisse accéder à la justice, mais pour exprimer quoi, quel sentiment. Demain, ce qui nous fait peur, c'est que quelle que soit la situation, il faille taper sur la touche 1, puis taper sur la touche 2, puis taper sur la touche 3. Qui d'entre nous n'a pas fait cet essai en s'arrêtant à la touche 4 ? Mais le drame, c'est que la touche 4, c'est celle qui touche à l'humain. Et demain, ce qui nous inquiète, c'est que l'avocat était le premier contact. Quand bien même n'y aurait-il pas eu d'avocat d'ailleurs, pour le justiciable, il était possible d'accéder à la maison de la justice, c'est-à-dire la maison du droit, la maison des libertés, le tribunal ou un cabinet d'avocat. Demain, ce sera par Internet. À partir de là, ça me pose un problème et tout ce qui est algorithme me pose un autre problème parce que l'important, c'est ce qu'on met dans une machine avant. Si demain, la justice, ce que je vous ai dit, consiste à mettre une pièce dans un distributeur, attention à ce qui tombera du distributeur. Je pense que ce ne sera pas une boisson comestible ou une boisson buvable pour tout le monde.
Un autre aspect qui vous pose question, c'est le fait que des instances soient fusionnées le cas échéant, plusieurs instances, plusieurs tribunaux et plusieurs spécialités également. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette démarche-là ?
Ce qui me gêne, c'est que le principe qui nous est posé, c'est nous n'avons plus les moyens financiers, alors on va regrouper. Ce n'est pas cette réponse que j'attendais, parce que le budget de la justice doit être un budget prioritaire. Il semble ne pas l'être, puisque comme je vous l'ai expliqué, il est partagé avec celui au sens de la justice des maisons d'arrêt. Ensuite, la fusion, on nous dit on ne changera pas les tribunaux, mais si on les fusionne alors que nos tribunaux sont déjà engorgés, si on les fusionne alors que pour joindre d'un tribunal d'instance à un tribunal de grande instance, selon les juridictions, il faut 2h30 en comptant ou le bus ou le car, voire le métro pour Paris. Non, pour nous, le problème de la fusion pourrait être une solution annexe, à condition qu'elle soit discutée, anticipée. Et dans quelle matière va-t-on fusionner? Qu'est-ce qu'on va choisir comme être les matières fusionnables? A-t-on interrogé le justiciable? A-t-on interrogé le juriste praticien au quotidien? Non. C'est ce que nous reprochons à ce jour de ce qui n'a pas été fait. C'est qu'une véritable concertation passe par un plan d'études, par un échange, puis ensuite par un rendu commun, ce qui n'est pas le cas. Donc nous proposons, mais nous ne savons pas, je dis en face parce que le terme en est là maintenant, ce que nous avons à recevoir alors qu'on aimerait tellement nous avoir à donner.
Est-ce que vous prévoyez d'autres actions, d'autres mobilisations comme les journées justice morte qui ont déjà eu lieu ces derniers temps?
Il y en aura. Nous sommes tous, je vous l'ai dit, en ordre des marches derrière le Conseil national des barreaux qui, avec le barreau de Paris et la conférence des bâtonniers, nous donne ces mots d'ordre. Nous suivrons ces mots d'ordre. Ils seront peut-être déclinés par certains barreaux d'une façon non pas différente mais plus avancée encore. Mais à l'heure actuelle, pour la première fois, la profession dans son intégralité est en total ordre de marche. Et à côté de nous, vous l'avez vu quand nous manifestions, il y a également les magistrats, il y a également des greffiers. Donc en ce qui concerne mon métier, oui, ça continuera. Oui, nous continuerons parce que le Conseil national des barreaux ne lâchera pas. La conférence des bâtonniers et le barreau de Paris ne lâcheront pas. Et les ordres, et leurs bâtonniers en particulier, parce qu'ils sont responsables de cette ordinalité et de cette proximité, ne lâcheront pas.
Voilà, à l'instant, c'était Pierre Châtel, président de la conférence des bâtonniers du Grand Sud-Ouest. Véronique Rolfo, bâtonnier de Tarbes, précise quelles seront les conséquences de ce projet de loi dans chaque département et en quoi la justice de proximité pourrait être menacée.
Très très clairement, il va y avoir un éloignement du justiciable de son juge. Effectivement, sur le plan local, il n'y a pas de suppression de tribunaux. Le tribunal de grande instance de Tarbes va rester là, mais il va englober le tribunal d'instance. Et c'est ce tribunal d'instance qui est le juge de proximité de l'ensemble de la population. C'est ce juge de proximité qui disparaît, alors qu'il a été créé il y a quelques années. Et c'est ce juge qui va disparaître, qui nous pose souci, sachant que fort clairement, cela va entraîner un allongement des traitements des procédures et certaines obligations intermédiaires indispensables pour que ce justiciable puisse accéder au magistrat, alors qu'effectivement, c'est lui poser des barrières, alors que ce magistrat doit être accessible, et c'est effectivement tout à fait fondamental, notamment pour les petits litiges de la vie quotidienne.
Dans la région Occitanie, les fusions qui sont envisagées entre plusieurs tribunaux, est-ce que vous avez une idée de la manière dont elles vont se mettre en place? Et est-ce que ça va toucher, par exemple, je pense au Gers, puisque le bâtonnier avait évoqué un risque de disparition des tribunaux de Condom et de Hoche?
Effectivement, il va y avoir des fusions et des absorptions et forcément des disparitions au détriment de la population, au détriment des commerces de proximité, au détriment, effectivement, comme on le voit sur le plan de la grève des cheminots. Nous voyons effectivement des cafetiers qui nous disent il n'y a plus de personnes qui prennent le train, il y avait toutes ces grèves. Moi, j'ai plus personne dans mon café, je vais être obligé de fermer la boutique, je ne peux pas tenir la route pendant une semaine ou 15 jours. Sur le plan du Gers, je ne sais pas trop, mais c'est effectivement plus près de chez moi. Enfin, encore que le Gers soit tout à fait proche, mais je sais qu'il y a des problématiques similaires dans les Pyrénées-Atlantiques avec le tribunal de Pau et le tribunal de Bayonne. De même que dans les Landes, le tribunal de Dax et le tribunal de Mont-de-Marsan. Alors effectivement, qui va avoir la priorité ou la primauté sur l'autre? Personne ne le sait absolument au moment où nous parlons. Puisqu'il faut que vous sachiez, et vous en souvenez, qu'au départ, on nous parlait de la réforme du territoire et de la suppression des cours d'appel. C'est exactement la même chose qui s'est produite il y a une dizaine d'années. Madame Dati nous parlait des cours d'appel et finalement, c'est tombé sur les tribunaux d'instance. Et aujourd'hui, on nous a fait exactement la même chose. On nous a parlé de suppression de cours d'appel drastique, ça pouvait être la moitié ou un tiers. Et finalement, ce sont la juridiction de proximité, les juridictions de proximité qui sont touchées. Et ça, c'est effectivement dramatique, puisqu'effectivement, et surtout dans nos départements qui sont des fois très très vastes, et je pense aux distances dans la Haute-Garonne, effectivement, entre Saint-Gaudens et Toulouse, ou des gens effectivement qui sont au fin fond des montagnes, effectivement, la proximité, c'est primordial. Même si on nous dit que tout le monde a une voiture, tout le monde a un ordinateur, je ne crois pas effectivement que ça soit aussi simple qu'il y paraît. Alors je crois surtout ce que je voulais vous dire, c'est que nous ne sommes pas opposés à une modernisation de la justice, puisqu'effectivement on nous dit nous sommes au 21e siècle, qu'il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ceci. C'est vrai qu'on nous dit la justice est lente, la justice est chère, mais la justice, effectivement, c'est vrai qu'elle a un coût, et c'est surtout l'État qui n'entend plus, ou qui ne peut plus, il ne faut pas se leurrer, qui ne peut plus assumer ses coûts, avec avec des magistrats en sous-nombre, des greffiers en sous-nombre, et des gens, justement, de plus en plus de volonté d'avoir accès à eux, ce qui est effectivement très, très contradictoire.
Est-ce que vous avez des signes qui vous sont envoyés aussi par les magistrats d'une certaine convergence de vues avec celle des avocats concernant cette réforme?
Oui, nous avons eu de l'occasion, puisqu'il y a eu des journées intersyndicales, d'avoir des manifestations avec les magistrats et avec les greffiers. Il y a quasiment des sentiments unanimes, effectivement, du souhait du législateur de la déjudiciarisation de la justice et du manque de moyens criants. Ça fait une éternité que nous le savons. Nous avons des vues quasiment identiques sur la plupart des sujets, peut-être hormis sur la question du tribunal judiciaire criminel, puisqu'effectivement, là, vous en avez parlé tout à l'heure, au lieu d'avoir accès au jury populaire et au peuple qui rend la justice au nom du peuple français, on souhaite, alors peut-être, c'est clair, pour accélérer le traitement de certains dossiers criminels qui mettent 4 ou 5 ans à être jugés, là, sur ce plan-là, ils n'ont pas les mêmes points de vue que nous, et ils trouvent qu'effectivement, pourquoi pas, sachant que nous le savons de notre côté, qu'un jury populaire, bah, il est plus humain. Alors effectivement, on accepte les professionnels du droit, les gendarmes, les avocats, les magistrats, tous ceux qui connaissent effectivement un petit peu la justice de près, mais ces gens-là vont juger au nom du peuple français et ont jusqu'alors une voix prépondérante, et là effectivement ils sont mis à l'écart puisque ce sont des magistrats professionnels qui vont juger, et certainement d'une manière très différente que le peuple français, alors que bon, ils sont tout à fait souverains, c'est clair, ils vont avoir à motiver leurs décisions. Mais c'est complètement différent, effectivement, d'être jugé par un professionnel que d'être jugé par quelqu'un, effectivement, de la vie de tous les jours.
Pendant la conférence de presse, vous disiez également que ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle gratuite fait partie de l'honneur des avocats. Ça concerne des personnes qui n'ont peu de moyens financiers. Est-ce que cette aide juridictionnelle, elle peut être menacée par cette réforme de numérisation des tribunaux d'instance ?
Je crains qu'effectivement, peu importe la question de la numérisation ou non des tribunaux d'instance, je crains qu'à terme et à très très proche échéance, il y ait effectivement une réforme de l'aide juridictionnelle. Ça fait des années qu'on en parle également. Elle est utilisée pour les personnes qui sont les plus faibles de notre population, c'est-à-dire des personnes avec des revenus inférieurs à 1 000 euros. Après, bon, il y a quelques correctifs en raison des charges de famille, mais ce système est à bout de souffle. Effectivement, là encore, en liaison avec l'augmentation des justiciables qui saisissent la justice, parce que franchement, ils en ont besoin, ils ne font pas ça pour le plaisir, et sinon, nous le savons, ils peuvent être sanctionnés. Il apparaît qu'à la fin de l'année, ou peut-être même avant, cette aide juridictionnelle va faire l'objet d'une réforme très importante. Peut-être qu'on va s'orienter vers une assurance obligatoire, une assurance juridique obligatoire, comme on a effectivement l'obligation de s'assurer quand on conduit une voiture ou pour son immeuble, l'immeuble dans lequel on habite. Donc effectivement, pourquoi pas, effectivement, l'État ne peut plus effectivement payer et financer cette aide aux personnes les plus vulnérables. Donc il entend se dégager de cette mission qui est pourtant effectivement est une mission largement aussi assumée par la profession d'avocat qui, alors, assume ça depuis une éternité. La plupart du temps, c'était sans rémunération, sans indemnité plus précisément, sachant qu'aujourd'hui, il y a une indemnité, mais qu'elle couvre pas forcément, effectivement, le coût généré par la procédure engagée.
Voilà, à l'instant, c'était Véronique Rolfo, bâtonnier de Tarbes. Et ce reportage, nous le devons à Jean-François Courty, notre correspondant sur Tarbes.